Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast spécial en direct de Cannes. Le premier épisode de ce podcast va vous relater les premiers jours du festival de mercredi. Nous vous ferons la grâce de ne pas parler de Monaco à vendredi. Pour évoquer ces trois jours, nous accueillons Pauline Labbadie. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et Julien Tialon. Salut Julien.
Salut Victor.
Alors, première question, on va peut-être un petit peu présenter pour vous ce qu'est le Festival de Cannes. Donc je crois qu'à tous les deux, c'est votre premier festival. Quel est votre ressenti sur ces premiers jours? Julien, je te laisse commencer.
Déjà, les transports, c'est assez lent. Ils sont tous en grève. c'est pas le top pour l'accueil, on va dire.
Il y a un début très terre-à-terre. Voilà, moi, mon train a eu 3 heures de retard.
Voilà, ouais, je suis arrivé avec une grève des bus pile poil le jour où il fallait pas, quoi. Bon. Donc, les transports, c'est pas top. À part ça, il fait beau, il fait chaud, contrairement à l'année dernière. Au niveau des accréditations, du palais, de l'ambiance, c'est franchement assez sympa, c'est assez cool. Moi, je le voyais plus comme un costard-cravate pour tout le monde, mais en fait, les gens ils sont assez décontractés, quoi, surtout au marché, où, voilà, ça va, ça vient. Et sinon, les films sont plutôt variés dans l'ensemble. Il y a vraiment, vraiment de tout. Le pavillon est gigantesque, le palais est impressionnant. Et on n'a pas testé encore les grandes, grandes salles, mais c'est pour bientôt, on espère.
Petite précision, donc tu as une accréditation pour le marché du film.
Voilà, ouais, tout à fait.
Donc tu vas plutôt voir les petits films du marché, voilà. Ce qui ne t'empêche pas d'aller voir les autres films.
Tout à fait.
Pauline, toi tu as une accréditation presse pour Istasia. Donc quel est ton premier ressenti sur le festival?
Écoute... Déjà, c'est assez étrange parce que j'ai toujours suivi le Festival de Cannes donc via les médias, les autres. Donc pour la première fois, j'y suis. Et on se sent beaucoup plus coupé, justement, des réactions des autres journalistes, des réactions des spectateurs, enfin, notamment parce que je fais pas mal de projections presse le matin. Donc on va dire que je le ressens pas comme le plus gros festival du monde de cinéma, mais plus comme un festival comme les autres, avec mon petit programme. Pour l'instant, j'ai eu la chance de voir tous les films avec mon... Enfin, je suis rentrée partout. J'ai fait les premiers films, Quinzaine, Un certain regard, ainsi que la compétition officielle. Et puis, la qualité est assez incroyable des films que j'ai vus jusque-là.
Donc, c'est marrant, tu as l'impression d'être moins informée sur le festival que lorsque tu n'es pas au festival.
Tout à fait, oui. Beaucoup plus solitaire, malgré le fait que je suis au milieu de... des journalistes du monde entier. On est assez, pour peu qu'on soit pas sur Twitter comme c'est mon cas, on est beaucoup plus à l'écoute de son ressenti et donc c'est pas si facile finalement de le prendre comme ça, d'être je sais pas comment dire, enfin journaliste au boulot.
Actrice,
voilà.
Quoi.
Actrice, journaliste.
Ouais.
Là, c'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir le sentiment contraire. Je pense que c'est la confrontation entre ceux qu'on a une accrédité presse et marché. Parce qu'au marché, le matin, en fait, t'arrives à 9h, le palais ouvre à 9h, les films commencent à 10h, mais entre 9 et 10, tu prends ton petit café Nespresso. Et t'as derrière, tout de suite à l'entrée, en fait, les journaux Hollywood Reporter et Variety, où ils font déjà, en fait, un screening guide de toute la journée, plus les revues de la veille. Et donc, d'un côté, en fait, t'es sensibilisé déjà par les critiques de la veille. Du coup, tu fais ton programme un petit peu en fonction de ça et moins en fonction de ton ressenti. Bon, alors nous, on couvre la sélection asiatique, mais on suit quand même aussi qu'est-ce qui se passe en compétition officielle, 15 réalisateurs. Du coup, on sait qu'on pourra pas tout voir, et donc on se base quand même sur... Enfin, moi, je me base, en ce cas, personnellement, sur cette documentation pour après voir, piocher, quels seraient éventuellement les bons films que je pourrais aller voir plus tard, quoi.
Alors que toi, Pauline, tu fais ta sélection peut-être de manière a priori, comme tu vois les films en avant-première, les projections presse ayant lieu bien avant en fait toutes les autres projections.
Tu marches au coup de cœur. Hein.
Peut-être, et puis notamment le fait que les cinéastes sélectionnés en compétition officielle sont quand même, pour les 18 ou 19, je ne vais pas dire de bêtises, sélectionnés, c'est des habitués. Donc je fais avec mes préjugés de journaliste et de cinéphile en allant voir ce qui m'inspire, entre guillemets. Et pas du tout sur la base d'un écho quelconque, en fait.
Et un autre élément intéressant, c'est justement le fait que c'est quand même un des événements le plus couvert médiatiquement au monde, et donc le gigantisme de la chose ne vous apparaisse pas fondamentalement en y étant, quoi.
Le tapis rouge n'est pas si grand que je croyais, c'est la première chose que j'arrive, je vois le tapis rouge, mais bon, il fait que, je sais pas, 30-40 mètres max, quoi. Moi, je m'attendais à un tapis rouge de 100 mètres, quoi, avec des milliers de paparazzi. Bon, à chaque fois, on est en projo quand il y a la montée des marges, donc j'ai pas encore pu assister à les milliards de flèches des journalistes, mais bon...
je sais pas, il m'a, pour l'instant je suis pas ultra impressionné quoi. Par contre c'est un rythme soutenu et effréné quoi. Toute la journée vous êtes en train de courir vers tous les cinémas parce qu'il y a le Palais mais aussi il y en a 3-4 autour de dans Cannes, donc vous êtes obligé de sauter de projo en projo. Et donc c'est très, très usant, c'est fatigant. Et là, on n'a que 2 jours de festival et quand même de bonnes courbatures et des petites nuits.
Mmh. Et il y a aussi ce côté, effectivement, j'ai l'impression que le festival est très compartimenté entre journalistes, people, spectateurs lambda, enfin qui n'existent pas, mais qui sont là pour regarder la montée des marches et ils se pressent devant les stars. Et c'est vrai que nous, on n'a pas forcément une idée, enfin c'est quasiment impossible d'avoir une idée globale aussi du festival. En tout cas, ça c'est le ressenti que... que j'ai quand on y va en tant que journaliste, on va plutôt aux projections de presse, on n'a pas forcément accès à la montée des marches et on ne fait pas de montée des marches en fait. Moi aussi pareil, j'ai une accréditation marché du film comme Julien et c'est un peu la même chose, on est plus dans le marché, vraiment dans les souterrains du festival on va dire, et donc on n'a pas accès à tout ce déchaînement médiatique qui peut y avoir.
Cela dit, juste à l'opposé, j'ai juste fait une séance publique, présentation officielle du film Un certain regard, et il y a quand même beaucoup de spectateurs cinéphiles, monsieur et madame tout le monde, qui sont là avec des invitations. Donc il y a quand même un bon mélange presse et quand même public avec des réactions assez drôles. Moi j'ai quand même vu beaucoup de spectateurs qui arrivent à rentrer, même à la fin de la projection presse du matin, j'ai vu des gens se faufiler quand même dans la très très grande salle.
Il y a quelques cinéphiles qui permet aux gens d'avoir des accréditations. Mais après, moi, je vous déconseillerais quand même de venir sans accréditation à Cannes, sauf si vous voulez porter des petites pancartes, parce qu'il y a des gens qui attendent des invitations. On les voit en sortant du palais du festival, qui attendent toute la journée avec des petites pancartes pour avoir une chance d'avoir une invitation. En plus, même une fois qu'on a l'invitation sans accréditation, on ne peut pas accéder forcément à la salle. Il faut être accompagné de quelqu'un qui a une accréditation. Donc, il faut rentrer avec quelqu'un. C'est un processus qui est un petit peu compliqué tout de même. Et honnêtement, les stars, on les voit de très loin. Donc, ça reste quand même, à mon sens, un festival très très professionnel. Pour le coup, c'est fait pour les acteurs de la distribution de cinématographique. Pour la presse, une vitrine du cinéma mondial. Mais monsieur, madame, tout le monde, moi j'ai peur que ils puissent apercevoir effectivement une actrice ou quelques stars, voire un ou deux films. Mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions.
Oui, cela dit, je me permets d'insister, j'ai vu beaucoup, beaucoup de spectateurs qui sont des quinquas habitués tous les ans, que j'entends discuter, que ce soit dans le bus ou dans les salles, qui sont vraiment des spectateurs et des cinéphiles, comme il y en a dans toutes les villes de France, et qui viennent voir les films quand même, qui sont restés à la projection du film turc en compétition, le Nuri Bilge Ceylan, qui sont restés les 3 heures, qui étaient contents de l'avoir vu. Enfin, j'en ai vu quand même des spectateurs. Enfin, après, c'est peut-être...
Et après, c'est vrai qu'il y a une vraie émulation. Pour le coup, les gens sont curieux de voir les films, veulent les découvrir. Donc c'est vrai que ça... Enfin, on parle beaucoup de cinéma, d'ailleurs, en dehors des salles, dans les bus, on s'en rend à Canada, donc on peut lui également. Donc oui, il y a vraiment une ambiance qui est assez unique, même, qu'on retrouve dans d'autres festivals, justement, mais là, qui est quand même plus importante, j'ai l'impression, quand même, et qui dure plus longtemps aussi, parce que c'est vraiment 15 jours où on est sur une planète... différentes à mon sens. Donc tu disais que les films de la compétition officielle étaient d'excellente qualité, Pauline. Alors on va pas parler de beaucoup de films, on garde le cinéma asiatique pour un peu plus tard parce que pour l'instant il y a que le Naomi Kawase qui est en sélection officielle, donc on en parlera je pense au podcast numéro 3, à l'épisode 3 en bas. Pour le moment, je crois que tu as vu le Macly, Mr. Turner,
oui.
Qui est une biographie donc du peintre Turner, et le retour de Macly en compétition après sa Palme d'Or pour Secret et Mensonge en 96, si je ne me trompe pas. Est-ce que le film est à la hauteur d'un réalisateur palmé?
Écoute, il me semble que oui. Parce que déjà, c'est c'est un film qui se veut film en costume, donc presque biopic d'un grand peintre anglais qui est fondateur pour la peinture anglaise et européenne, qui est précurseur dans l'impressionnisme. Mais c'est pas du tout un biopic, en fait. C'est un film pas du tout cérémonial, donc qui se concentre sur les dernières années de la vie de William Turner et qui est très très... comment dire, qui crée une narration beaucoup plus maligne que ça, donc qui parle à la fois de sa peinture, mais de ses relations avec l'Académie des Arts, donc également de ses relations sentimentales et personnelles. Et donc le personnage et le peintre sont vraiment une création scénaristique. Enfin voilà, c'est un personnage très 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 bien écrit. Qui a priori, on ne sait pas si c'est vrai, mais avait énormément d'humour. Donc le film, il dure quand même 2h30, mais il est traversé de grandes scènes de comédie, et l'acteur est brillantissime. Voilà, donc je pense que c'est quand même un film en costume, mais pas du tout ennuyeux, pas du tout classique. Enfin, malgré son classicisme apparent, c'est vraiment... c'est loin de ça, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sélectionné.
Quand tu dis que ça s'éloigne du biopic... est-ce que c'est parce que le peintre apparaît comme une création imaginaire justement dans le film, où ça s'éloigne du caractère historique ou des codes du biopic qui généalement expliquent un peu l'œuvre d'un grand homme par sa vie. Enfin, moi, c'est un peu
oui,
comme
oui,
ça.
Non, mais c'est ça reste classique dans ce sens, parce que oui, en effet, son travail est mis en valeur et explicité, mais de manière beaucoup plus fine que ce qu'on a pu voir quand même auparavant. Notamment, je pense comme ça à Pollock, qui est un film, enfin, le biopic sur Pollock, ou Frida Kahlo, des exemples très hollywoodiens comme ça. Là, c'est vraiment, comment dire, c'est le caractère du personnage, de l'homme, qui travaille sa peinture et qu'on voit vivre dans les scènes où il peint, mais aussi les scènes de la vie courante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait conscience d'être un précurseur, mais qui n'écrasait pas du tout les gens autour de lui. Et donc tout ça est très très bien montré, très finement, sans que ce soit vraiment une alternance de scènes sentimentales d'un côté, d'autres scènes de travail. C'est pas du tout comme ça, tout est entremêlé. Il y a un rythme très très délicat, mais on s'ennuie pas une seconde. Donc oui, c'est un biopic, mais comment dire, porté à un niveau vraiment supérieur.
Ça sera intéressant d'ailleurs de le comparer avec le Bertrand Bonello, qui lui aussi est un biopic et qui semble s'écarter donc des chemins du biopic classique, qui s'appelle tout simplement Saint-Laurent. Je recherchais le titre, mais c'est le plus simplement possible. On en reparlera peut-être quand on fera un petit bilan, je pense vendredi, pour voir d'après toi, parce que je pense que c'est toi qui aurais vu le plus de films de la compétition officielle, quelle serait ta palme d'or. Donc on verra ça en fin de festival. Je vous rassure, on parlera de Winter Sleep, donc de Nuria Bilge Ceylan, dans le podcast numéro 2. Julien surtout et moi-même allons le voir très rapidement. Juste un tout petit mot très rapide pour dire que t'as beaucoup aimé, il me semble.
Oui, c'est pareil, encore un film très très long, enfin le second très très long, mais je pense qu'il y en a d'autres. Dans la compétition officielle, donc 3h15 il me semble.
Pour être sélectionné cette année, il fallait faire plus de 2h10, hein. Je pense qu'en dessous de
2h,
c'est pas la peine, quoi.
C'est assez impressionnant, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus longs, on a l'impression, les films.
Sinon, mais... c'est pas sérieux, c'est l'effet, je pense, Kechiche, hein. C'est pour avoir une palme d'or, il faut faire un film de 2h quand même.
Ça va être dur le KOAC alors pendant 2h. Mon dieu.
Mais cela dit, la longueur du film joue vraiment. Enfin, comment dire, le film est très éprouvant. C'est une histoire d'une famille isolée en Anatolie, et très rapidement c'est une sorte de comédie humaine assez monstrueuse, avec des gens qui ont des caractères très très difficiles, et je pense que c'est son film le plus bavard. Donc c'est du dialogue à tout va, c'est des chants contre chants, très fixes, et grâce à ça, c'est incroyable, ça fait penser à des romans russes avec des traits de caractère comme ça, de gens monstrueux, et c'est assez brillant.
Bon, on en reparle très bientôt. Je pense être d'accord avec toi, même si je ne l'ai pas encore vu, donc on verra ça très très, très vite. Nous ne parlerons pas de Captive, tout simplement parce qu'il n'est pas de Mendoza, mais d'Atom et Goyan cette fois, et qu'on a décidé de le zapper. Par ailleurs, outre la compétition officielle, il y a la sélection Un certain regard, où un premier film, alors on va pas dire qu'il nous a divisé, mais en tout cas sur lequel on a des avis assez partagés, était présenté. Il s'agit de Party Girl, qui était présenté en ouverture d'un certain regard. Pauline, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle et quel a été ton premier ressenti sur le film?
Alors, c'est l'histoire d'une quinquagénaire qui est, je pense, ce qu'on appelle une entraîneuse dans un cabaret. Ça se passe à la frontière franco-allemande.
Point voilà. Très important.
Ouais, donc tous les personnages parlent à la fois français et allemand. Et alors, c'est l'histoire de cette dame qui, à un tournant de sa vie, va s'éprendre d'un client qui lui la demande en mariage, pardon. Et donc, tout le film suit la réflexion, les hésitations de ce personnage. Donc, il se trouve que le film, en plus, est a priori un film de fiction, mais très inspiré de la vie de l'actrice principale. Notamment, tous les autres personnages sont des gens de sa famille. Donc, il y a un aspect assez documentaire. Voilà, moi, je suis restée complètement en dehors de ce film-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait... Il y avait un regard sur... donc c'est un milieu très très populaire, pour pas dire un peu bof quand même, qui est dépeint, qui est filmé. Et voilà, avec le clinquant, la laideur du cabaret, parce que c'est quand même... Les corps des femmes sont filmés quand même. Enfin bon, c'est assez de lait, quoi. Et je trouve que le regard des cinéastes sur cet univers et sur ce personnage est un peu voyeur. Et sans... plus de choses, à mon sens.
Ça t'a laissé un petit peu indifférente, alors. Enfin, tu t'es sentie extérieure au sujet, extérieure à l'histoire.
Non, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait... Alors, le personnage est pas... Le personnage principal, qui est une... je pense, une actrice née, hein, qui est vraiment assez... Qui a une présence incroyable, n'est pas écrit. Plus que ça... ce qui se passe, on l'anticipe très rapidement. Ouais. Il se passe rien de bien intéressant. Une sorte de scène finale de mariage qui advient, mais qui est pas du tout ni originale ni intéressante.
Alors, je précise que le monteur Nicolas nous a demandé explicitement de ne pas faire de spoiler. Je le dis aussi pour les auditeurs, comme ça. On ne parlera pas de la fin, mais on en parlera quand même. On ne peut pas s'en empêcher. mais on va essayer d'éviter au maximum.
Cela dit, le film commence par une demande en mariage les 15 premières minutes.
Oui, donc il faut raconter l'histoire.
Mais je suis
d'accord sur ton côté prévisible. C'est que dans la première heure, je la trouve pas forcément super intéressante, même si elle explique en fait finalement la dernière demi-heure, les conséquences en fait de cet acte. Et c'est vrai que le personnage principal m'est très fortement antipathique. Mais par contre, j'étais agréablement surpris par la dernière demi-heure, en fait. Même si elle est très prévisible, je trouvais que ça dégageait quand même une certaine forme d'émotion. Et là, ça prenait peut-être un petit peu plus d'épaisseur au niveau du récit. Je me souviens surtout d'une scène en particulier. Donc c'est pour toi, Nicolas. Au niveau du mariage, en fait, quand en fait on sait très bien, enfin, elle passe la bague au doigt en fait à son mari, et en fait lui le regarde 4 fois ou 5 fois de suite, et elle regarde droit devant elle, les yeux dans le vide, en train de sourire bêtement à l'assistante. Et on sait depuis qu'une, en fait, on sait de près, presque 5 minutes après la demande en mariage, on sait très bien que de toute façon elle n'aime pas cet homme, et que finalement c'est presque un sacrifice qu'elle est en train de faire, parce que grâce à cette demande en mariage, elle a pu réunir en fait toute sa famille, et puis en fait finalement elle devient un petit peu plus égoïste, et elle attend quand même le mariage proprement dit, alors qu'elle aurait pu faire cet acte bien avant. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir dans cette deuxième partie, le fait qu'elle aurait pu dire non avant, elle le dit non après, ils vont subir les conséquences même si on ne le voit pas. Mais après, je vais pas trouver, ça va pas aller de ça indifférent, mais j'ai pas trouvé ça non plus très intéressant. Après, c'est pas un mauvais premier film. J'ai bien aimé la musique, c'est pas mal filmé entre guillemets, hein. J'ai pas trouvé ça, mais voilà, c'est pas foncièrement mauvais, mais j'irai pas le revoir, c'est certain.
Alors, c'est un premier film réalisé par 3 jeunes réalisateurs qui sont issus de la FEMIS.
Ça, c'est décevant, par contre.
Et du fait qu'ils soient issus de la FEMIS,
ouais, du fait qu'il y ait 3 réalisateurs issus d'une institution cinématographique très cotée, et qu'ils arrivent à coucher de ce film-là, ouais, je trouve ça quand même un petit peu décevant.
Je les trouve aussi très dans la veine Alors, dans la veine d'Ardennes, et c'est vrai que chez les Ardennes, il n'y a pas ce voyeurisme que tu as pu trouver pour les personnages. Et moi, qui m'a semblé... Alors, je ne connais pas du tout le parcours des trois réalisateurs. J'imagine qu'ils ne viennent pas forcément de ce milieu. Bon, quand tu fais la fémis, c'est plutôt voilà, parisien et plutôt bourgeois, généralement. Enfin, ça, c'est un, moi qui
ça,
a
c'est
des...
un préjugé, par contre. C'est pas sûr.
Voilà. Mais en tout cas, là, on est dans un milieu provincial, extrêmement populaire, comme tu l'as dit. Et j'ai, pas, enfin, j'ai plus l'impression d'avoir un regard extérieur, effectivement, sur ce milieu. Et peut-être que je me trompe et que c'est un préjugé. Plutôt qu'un... Voilà, les Dardennes, eux aussi, ne viennent pas forcément des milieux qu'ils dépeignent, mais arrivent à avoir un regard de l'intérieur. Et c'est vrai que pendant toute la première heure, je ne sais pas si c'est dû aux éléments de la mise en scène ou à notre propre regard de spectateur, alors surtout de voir un film à Cannes change aussi peut-être un petit peu la perspective, du fait d'être assez extérieur et d'être, alors, souvent dans le jugement, à la fois par rapport aux actes du personnage principal, qui en plus d'être extrêmement vulgaire, n'arrête pas de fuir ses problèmes, de ne jamais assumer la conséquence de ses actes, d'être complètement irresponsable alors qu'elle attend un âge où on se dit que l'expérience accumulée par sa vie pourrait lui donner un petit peu de sagesse, ce qui la rend assez antipathique en effet. Et ce que je trouve assez intelligent dans le film, c'est que tout cela se retourne dans la dernière partie, pour moi, dans la scène du mariage, où finalement l'humanisme des personnages apparaît vraiment. Et j'ai l'impression que tout ce processus où finalement on était en train de juger ces personnes qu'on était en train de voir était nécessaire pour pouvoir les comprendre leur motivation et au final être touché par les événements. Donc ça m'a un peu gêné dans une première partie, je l'ai complètement oublié dans la dernière partie pour dans mon cas en tout cas.
Je ressens la même chose. Oui, tu l'as mieux expliqué.
Après, ce que tu dis, enfin, je pense que par rapport à la sincérité du projet des trois réalisateurs, ils avaient déjà travaillé avec cette dame et actrice, j'ai oublié le nom.
Donc Angélique.
Angélique. Ils avaient fait un de leurs courts-métrages autour d'elle, autour de ce personnage déjà. Donc il y a un intérêt absolu pour cette femme et pour son univers. Ils l'ont fait, ils en ont beaucoup parlé à la présentation, elle est venue sur scène, elle a eu une standing ovation avant que le film soit présenté déjà. Donc je doute pas vraiment de la sincérité du regard, mais je trouve qu'il y a une maladresse dans la ligne scénaristique et même dans quel est le but de raconter l'histoire d'une femme qui aime faire la fête. Parce que finalement, il me semble que la fin, c'est quand même que elle aime faire ça plus que tout. Elle aime faire la fête plus que l'idée de se marier, plus que l'idée d'assurer une famille. Mais sans jugement aucun. C'est ce qui est expliqué dans le film. La musique finale, c'est une chanson qui parle de ça, des femmes qui font la fête et qui n'aiment que ça, boire de l'alcool. Enfin, et je trouve que ce long métrage, pour n'aboutir qu'à ça, me semble un peu...
Moi, j'ai pas vu la fin tout à fait comme
mais
ça.
Mais voilà, c'est peut-être. Le renversement dont tu parles, j'ai pas du tout vu, senti.
Parce que j'ai compris, enfin, ce que j'ai vu, c'est qu'elle, effectivement, elle arrivait à une certaine forme de maturité. Alors, effectivement, pas par le mariage qu'elle refuse, mais en tout cas en acceptant le fait que ce mariage est une illusion, ouais. Et en le disant directement et en affrontant la situation avec c'est son vrai. Mari, ce qu'elle ne fait pas avant. Et par contre, elle s'est rapprochée de ses enfants et de sa famille, et elle a réussi à avoir des vrais liens. Avec ses quatre enfants qu'elle n'avait pas du tout avant. Donc, je l'ai vu quand même comme une certaine forme de maturité du personnage sur la
d'accord.
fin.
Parce que moi, je vois c'est tout de suite qu'à partir d'un moment où elle va dire à son mari que finalement elle ne veut pas se marier, enfin elle s'est mariée mais qu'en fait elle ne l'aime pas, tu vois les conséquences derrière, tu n'as même pas besoin de les voir. Et pour ça, je trouve ça assez malin, cette ellipse en fait, de ne pas voir encore une troisième partie où tu as les conséquences de ce désaveu. Et là, je pense que dès le début, elle sait très bien. Hein. Enfin, là sur le coup, moi je suis pas. C'est la personnage principale, c'est quelqu'un qui vit dans l'instant présent, a fait la fête, mais fait toujours des actes irréfléchis, quoi. Et d'ailleurs, quand le mari lui demande en mariage, elle va voir ses copines de cabaret qui lui dit fais attention. Et elle, peut-être qu'elle, c'est pas trop, elle y va, mais comme ça, quoi. Sans vraiment réfléchir, en gros. Et après, elle laisse couler la situation, son fils va l'aider pour faire plainte pour organiser le mariage, c'est lui qui va dire « Ah, faut aller te voir aussi ta fille ». Bon, elle y va, heureusement, elle trouve la maturité pour y aller toute seule. Mais il a fallu vraiment qu'on l'aide, quoi, qu'on fasse tout à sa place. Et heureusement, à la fin, oui, elle acquiert cette maturité, mais, mais justement, c'est une fausse maturité, en fait.
Donc, si vous aimez faire la fête, je ne sais pas si Party Girl est le film pour vous. En tout cas, il sortira très certainement
3 septembre.
Le 3 septembre. Donc, vous pourrez le voir et le découvrir donc à la rentrée prochaine. À un certain regard, tu as vu, Pauline, un autre film qui est actuellement en salle, qui est le nouveau film de Mathieu Amalric, La Chambre Bleue. Qu'en as-tu pensé ?
Alors, j'en ai pensé beaucoup de bien, notamment parce que c'est une adaptation d'un roman de Georges Simenon. Et je trouve qu'il me semble, pour être une grande lectrice de Simenon, que c'est une adaptation assez parfaite, c'est-à-dire que ça restitue totalement l'univers de Simenon, avec une espèce de... Donc c'est une enquête policière sur un crime passionnel, et il y a une froideur dans l'écriture de Simenon qui est complètement recréée par la mise en scène d'Amalric, notamment... donc le film est pour une bonne part... des scènes de commissariat, où le personnage principal qui est accusé d'un crime répond de ses actes, et donc il y a beaucoup de dialogues qui sont autant des voix off que des voix over. Donc en fait il y a, entre ce que les personnages ont fait, ce que les personnages sont accusés d'avoir fait, la vérité criminelle, sentimentale, il y a toujours un décalage entre l'image et la voix. C'est ce qui se passe souvent dans les romans de Simenon, entre le décalage entre les sentiments des personnages, ce qu'ils font en société, et donc Amalric qui réussit à mettre ça en scène merveilleusement.
Voilà. Une grande maîtrise en scène.
Absolument. Bon. Mais c'est un film un peu froid aussi, un peu clinique, et je pense que les gens l'ont beaucoup vu, enfin, il l'est, et contrairement à Tourner, le précédent film de Mathieu Amalric en tant que réalisateur, c'est l'exact opposé, c'est un film... sur la chair, mais sans chair, enfin, avec beaucoup moins de chair et de volupté, de sensualité que son précédent film. Mais justement, la rupture entre. Enfin, sa maîtrise d'univers assez différent, moi, m'a vachement impressionnée.
Bon,
ça confirme l'essence d'un bon réalisateur et d'un très bon acteur en plus.
Oui, mais c'est vrai que d'ailleurs, à un certain regard, entre Mathieu Amalric. Asie Argento, Ryan Gosling, on a un peu l'impression que c'est la catégorie acteur qui passe, qui passe à la mise en scène, quoi, pour le coup. Je vous rassure, vous êtes bien sur Extasia. Et nous avons aussi vu des films asiatiques. Cependant, il y en a quand même très peu cette année dans les compétitions officielles.
80, donc, pour être précis.
Il y en a
80, alors que...
Ah, au marché du film, donc.
Au marché du film, ouais. Ouais. Enfin, dans la totalité, il y en a 80, et en fait, il y a 2-3 ans, on avait le double. Donc on voit quand même que depuis 2010, on va dire, il y a quand même une nette baisse des productions et des distributions de films asiatiques. Bon, on espère que c'est cyclique et ça va redémarrer bientôt.
Bon, en tout cas, pour les compétitions officielles, voilà, là c'est encore plus réduit, et donc le marché du film traduit aussi cette baisse de la production. Mais nous avons quand même, Julien, vu quelques films asiatiques au marché du film.
Tout à fait.
Dont, je ne sais pas par lequel commencer, un que tu as aimé peut-être.
On commence par Obsess alors.
Donc Obsess, qui est un film coréen de Kim Dae-ho. Qui raconte, Julien, je te laisse résumer.
Qu'est-ce que ça va raconter en fait? C'est l'histoire d'un. Alors on est en été 1969, avec la guerre du Vietnam. La Corée est implantée là-bas et on est, je crois, de retour en fait en Corée du Sud dans un camp rapatriant en fait les soldats blessés. C'est un camp militaire avec les soldats blessés de ceux qui étaient au Vietnam. Et on y voit en fait un colonel qui est responsable en fait de militaires. Et il y a un nouveau sergent qui arrive avec sa femme, et du coup le colonel va tomber éperdument amoureux en fait de la femme de ce sergent, et va s'en suivre en fait après tout un jeu en fait de je t'aime moi non plus, et c'est maîtrisé cinématographiquement parlant, Après, les Coréens en général ont pas trop de mal, sont assez efficaces là-dedans. Après, bon, il y a un standard qui fait que maintenant ce genre de film dure plus de 2 heures, donc on peut trouver le temps un petit peu long sur certaines scènes. Le jeu des acteurs est pas mauvais en tout cas, je trouve ça assez bien joué. Par contre, il y a beaucoup de couches et de surcouches émotionnelles. Ça en fait quand même pas mal des tonnes. Surtout vers la fin quand même, où c'est vraiment, enfin, on rajoute encore et encore, on surenchérit vraiment énormément. Mais j'étais quand même agréablement surpris dans sa globalité du récit. Je m'attendais franchement à pas grand chose. Et il y a beaucoup énormément de défauts, mais il y a quand même une belle énergie. Je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, bon, après, c'est pas un film qui sortira en France. C'est pas un gros film.
Non. Le film peut être quand même assez coté en Corée.
Oui, en Corée, il va répondre à beaucoup de standards.
En France, on n'entendra plus parler après aujourd'hui sur les stadiums.
C'est clair. Mais t'as quand même quelques thématiques intéressantes. T'as l'ascension sociale, t'as l'hypocrisie des femmes de sergents qui n'arrêtent pas de se parler entre elles, toujours des potins, enfin vraiment du commérage. Ça, je trouvais ça pas mal. Et t'as aussi l'histoire d'amour aussi quand même qui est moi je me suis laissé quand même assez porter là-dedans. Il y a quand même aussi point assez marquant en Corée, c'est que t'as des scènes érotiques assez crues quand même, pas forcément super bien filmées, mais c'est quand même beaucoup plus épanché que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est quand même un point à noter.
Il y a notamment de la nudité frontale,
ouais,
qui normalement dans les grosses machines
à Paris Sanctuary, c'est extrêmement
complètement prohibé. Moi, je pense que le film va avoir une petite réputation sulfureuse en Corée à cause de ces scènes-là.
C'est peut-être son côté provocateur justement qui va aussi qui permet d'attirer encore un petit peu plus de public. Ouais. Ils ont essayé de piocher un petit peu dans tous les genres en fait pour essayer d'attirer le plus de monde. Et c'est pas bête commercialement parlant.
Même si justement dans ces scènes, je trouve que effectivement, bon, ça fait un peu argument commercial, hein, parce que notamment on reste dans une esthétique très très léchée, très belle. Il y a rien qui dépasse. D'ailleurs, tous les acteurs du film sont quasiment des top modèles, alors qu'on est inscrit dans une réalité normalement historique qui devrait choquer un peu plus que ça. Et c'est vrai qu'on pense à du Wong Kar-wai un peu soft, mélangé à une esthétique à la Mad Men pour les décors, dans un contexte coréen qui est assez important. D'ailleurs, bon, quand tu dis que tu étais agréablement surpris, moi je trouve que la surprise est complètement absente du film. Par contre, si ce n'est un détail près, c'est vrai qu'il y a une piste que j'avais trouvée intéressante au début, qui était le stress post-traumatique en fait, du soldat qui revient du Vietnam. Et le fait qu'il prend des pilules, qu'il fait des cauchemars par rapport à la guerre. Et je croyais bêtement que l'obsession du titre du film allait être la guerre du Vietnam.
Eh ben non.
En fait, et très rapidement, il y a une scène très maladroite où c'est évacué à travers un autre malade qui prend en otage la femme dont il va tomber éperdument amoureux parce qu'il sera encore au Vietnam alors qu'il est en Corée. Le personnage est évacué. Ses psychoses aussi, et finalement l'obsession va se focaliser uniquement sur l'histoire amoureuse, et là on va entrer dans un grand mélo romanesque, voilà, comme on en a déjà vu des dizaines, sans grande surprise, mais plutôt bien fait.
Voilà, toujours efficace avec le cinéma coréen, malheureusement, c'est qu'ils font pas de... Il n'y a pas de... C'est pas foncièrement mauvais, alors on s'ennuie pas, on continue, on regarde de manière polie, on va dire, entre guillemets. Mais c'est pas, il y a pas, ça ressort rarement un grand film.
Bon, le fait qui montre que c'est quand même un film regardable, c'est qu'on est resté pendant les 2h10,
ouais,
alors qu'on était parti des deux films précédents. donc cette collection. Est-ce qu'on t'a donné envie de le voir d'ailleurs, Pauline?
Je sais pas, ça m'a évoqué une série coréenne que j'ai vue au festival Sarimania, dont j'ai oublié le titre.
C'est très drama.
Voilà. Donc peut-être.
C'est un peu plus osé au niveau justement de la représentation des scènes de sexe, mais sinon effectivement on pourrait être dans une esthétique drama.
Ouais.
Un des autres films que nous avons vu au marché du film asiatique et hongkongais, c'est le dernier film de Fruit Chan, The Midnight After, avec un casting qui est assez impressionnant puisqu'il réunit deux acteurs de Junito Simoniam et Lam Suet, mais aussi Karawi et plein de jeunes que je connais pas et qui ressemblent à des beaux gosses de drama, voilà. Justement comme dans le film précédent.
Simoniam a une très belle chevelure dans le film.
Voilà, et un Simoniam avec effectivement un look complètement à contre-emploi qui est assez amusant. Je vais résumer parce que comme tu n'as pas aimé
et que je me suis un peu endormi
et tu t'es un peu endormi, j'ai peur que tu fasses passer ce film pour une absurdité complète dès son résumé.
Ce qui est la réalité.
Ce qui n'est absolument pas le cas. Le film commence en prenant tous les présupposés d'un film d'horreur assez bas de gamme, assez série B. Un groupe de 17 personnes, très exactement, se retrouve dans un bus pour quitter Hong Kong, traverse un tunnel et là tout le monde a disparu. Il se retrouve comme dans Seul Tout avec Eric Ramsey, sauf que c'est Hong Kong. Bon, là c'est moi qui dis un peu n'importe quoi sur,
voilà.
Sur
on confirme bien que c'est bas de gamme
sur le film, si ce n'est que ce début effectivement est bas de gamme. On va avoir des gens avec des masques à gaz qui rôdent autour de nos protagonistes, une personne notamment
qu'on voit pas très souvent alors que ça
on ne voit pas très souvent effectivement c'est la fiche du film mais on va y revenir, des appels téléphoniques qui font sursauter les gens avec des gros renforts musicaux derrière, et pendant une vingtaine de minutes on se demande si on est vraiment devant un film d'horreur, si on est devant une parodie de film d'horreur, et la réponse arrive au bout d'un moment. Ils arrivent à capter en morse un message qui est essentiel pour la compréhension du film et on se rend compte très rapidement qu'en fait ce sont des citations de David Bowie. Et là, quelqu'un arrive à dire, mais en fait, c'est Space Oddity et c'est Major Tom qui nous parle. Et là, il se met à chanter David Bowie. Le film devient une comédie musicale l'espace de 5 minutes. Et ensuite, on sait qu'on est clairement dans une parodie de film d'horreur qui reprend toutes les codes et toute l'esthétique à peu près de ce qu'il ne faut pas faire en s'en amusant des films d'horreur. Donc pour moi, on est plutôt dans un univers à la Shaun of the Dead avec un ensemble, un univers qui colle à la réalité hongkongaise. Julien, tu n'es pas d'accord avec ça?
Si, non, après, on peut très bien prendre ton interprétation. Après, ça peut très bien, comme tu dis, être une parodie de horrifique, quoi. Mais après, il faut que ce soit bien. Moi, je me suis fait chier comme un rat mort à regarder ça, quoi. Et après il y a des scènes qui sont marrantes, ça je dis pas, mais la plupart du temps là c'est d'horribles longueurs, quoi. C'est ultra référencé, il y en a qui sont sympas, il y a des références à Park Chan-wook lors du meurtre, l'assassinat de l'un des protagonistes où chacun prend un coup de couteau et il la scène dans différentes parties du corps, sauf que la scène dure 5 voire 10 minutes.
C'est du monde de répétition.
Voilà, avec chacun sa petite histoire, donc c'est ultra long. J'ai pas trouvé, les acteurs sont vraiment, à part Simon Yam et Karui qui dégagent un certain charisme dans leur rôle, le reste c'est ça fait horriblement amateur, même si c'est voulu. Ça peut être complètement voulu, ça n'empêche pas que je trouvais le temps extrêmement long, surtout dans la fin. Et moi je trouvais justement que c'était vraiment très assez mal fait. Quand je regarde l'affiche du film et que je vois un mec avec un masque à gaz et qu'on voit à peine 5 minutes dans tout le film, je trouve bien quand même l'arnaque marketing là-dessus, quoi. Alors qu'ils auraient pu très bien mettre plus en avant Karawi et Simon Yam, là par contre ça aurait beaucoup plus attiré.
Bon, ça faudra en parler aux créateurs de cette affiche qui effectivement n'enflète pas l'aspect parodique du film. Après, oui, effectivement c'est une question de sensibilité sur l'humour. J'aime beaucoup les parodies, j'aime beaucoup l'humour référencé. Donc voilà, dès l'arrivée de David Bowie, moi j'étais complètement conquis par le film.
Alors que j'adore Shaun of the Dead et que Edward Wright, pour moi, a fait de très beaux films. Donc la comparaison me paraît un petit peu disproportionnée.
Moi je suis pas très. Enfin, j'aime bien Edgar Wright, mais je suis pas très fan. Je préfère Fritz Chan pour le coup. Et justement, et comme chez Edward Wright, où il y a un message social derrière sur l'Angleterre d'aujourd'hui, généralement dans ses films. On trouve dans ce film, alors je vais pas dire une analyse profonde de ce que devient Hong Kong aujourd'hui, mais tout de même une sorte de métaphore à travers ces paysages déserts de Hong Kong, de métaphore sur la disparition en fait de tout ce qui fait l'âme de la ville et qui est maintenant mangé en fait par la Chine qui fait disparaître ce qu'est vraiment Hong Kong. Et en fait chaque personnage qui est aussi un stéréotype du film d'horreur de Hong Kong international, mais surtout de Hong Kong, représente une petite partie à travers son histoire de cette âme de la ville qui est en train de disparaître. On le comprend petit à petit, en fait, tout a disparu et ils sont en 2018, ils commencent à parler des élections qui ont lieu à Hong Kong, du changement de régime qu'il peut y avoir sur la ville. Et la fin a une petite nostalgie comme ça de cette disparition, de l'âme de la ville, de ce qui fait Hong Kong et qui tend à disparaître. Et le film témoigne un peu de ça, en filmant notamment à chaque fois qu'on arrive dans une région de Hong Kong, enfin dans un quartier d'Hong Kong, en disant voilà, ça se passe à tel endroit, c'est écrit sur l'écran, on nous montre l'endroit tel qu'il est animé en fait, quand tout le monde est là, on dit à 5h du matin, normalement il y a toujours plein de monde, et là on le voit désert en contrepartie. Et donc il y a ce petit aspect nostalgique sur ce que devient Hong Kong qui est assez joli dans le film.
Non, ça va, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être le seul point positif que je retirerai du film. Même si je ne le reverrai jamais au monde pour une deuxième fois. Mais je pense que ça plairait beaucoup à Yannick, hein. Note-le.
Très bien, bah Yannick, si tu nous écoutes. Hein. Donc The Midnight After, lorsqu'il sortira en DVD, on t'attend dessus pour une chronique. Autre film asiatique qui était à Berlin et qui termine son parcours festivalier avant de sortir très prochainement en France, c'est Blind Massage de Lou Ye. Julien, tu as un peu plus aimé que The Midnight After, donc tu peux nous dire de quoi ça parle. Hein.
Oui, tout à fait, Victor. Je crois d'ailleurs qu'on a plutôt bien aimé tous les deux, ce qui est peut-être le seul film où on est presque d'accord. alors au niveau du synopsis, c'est l'histoire. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans le scénario, il y a beaucoup d'histoires entrecroisées, mais globalement c'est une histoire avec des non-voyants en fait. Dans un centre spécialisé de massage et s'ensuit en fait plusieurs histoires de triangulation amoureuse entre guillemets. Bon, il y a plus d'entrecoupements au niveau de là-dessus, donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu confus scénaristiquement parlant. Par contre, d'un point de vue procédé stylistique, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a plusieurs scènes avec des changements de point de vue où on passe là où on voit complètement d'un aspect extérieur, où on voit vraiment de manière très claire la réalité, à un aspect où en fait on s'immerge dans la cécité en fait du personnage et que ça devient beaucoup plus flou et en fait ça entraîne une certaine oui, vas-y Victor.
Non, je...
Mais moi je trouvais ça extrêmement intéressant, c'est vraiment un point marquant du film. Après, Louis, il est vraiment connu pour son côté elliptique du scénario et c'est pas forcément le plus important. Là, c'est plus une question de perception par ses procédés et par aussi ses histoires amoureuses où il change de point de vue en fonction que d'un point de vue de l'aveugle et d'un point de vue d'un non-aveugle. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant, alors que depuis quand même 5 à 10 ans, Louis, c'était un petit peu perdu, on va dire, hein, clairement, parce que son dernier Mystery était vraiment, vraiment atroce. Il s'était aussi un petit peu perdu avec son film qui était à Cannes, je crois, c'était... j'ai plus le nom, mais il était présenté à Cannes, et c'était aussi une grosse déception. Et là, j'ai plus l'impression qu'il revient sur ses anciens films, sur vous avec Suzu River et Summer Palace. Et là, je retrouve le vrai Louis, et le film a beaucoup plu dans ce sens-là.
Eh bien, je suis complètement d'accord. En plus, on arrive à 45 minutes, donc il va être temps de conclure. On va finir par un petit film count. Donc, je vais vous demander à chacun combien de films vous avez vus et quel est votre film préféré parmi tous ceux que vous avez vus depuis le début du festival. Julien ?
Alors les films vus en entier, je crois qu'il y en a 5 ou 6.
Que tu sois plus précis. Hein. Bon, alors je vais tenir un compte.
Il y en a 5 en fait. Et je crois qu'il y en a, déjà 4 que j'ai vus partiellement parce que voilà. Et mon préféré pour l'instant c'est le Louis, c'est Blind Message, de loin.
Pauline ?
Oui, alors j'ai vu beaucoup moins de films que vous, il me semble. J'en ai vu 5. Et je pense que c'est peut-être parce que c'est le plus récemment vu. Je l'ai vu cet après-midi. C'est le film turc en compétition officielle.
Winter Sleep,
qui à mon avis est, enfin qui m'a le plus marqué, qui je pense est très 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 beau.
Et tu penses qu'il a une chance de gagner la Palme d'Or?
J'ai pas du tout encore vu tous les films en compétition, donc je me prononcerai pas. Mais en tout cas, c'est un grand, grand film. C'est une grande expérience de cinéma. Pas que par la durée. Voilà.
Moi, j'ai vu moins de films que toi, vu que j'en ai vu 4 hein, en entier.
Plus tard.
Je suis arrivé un peu plus tard. Julien me force à sortir des séances des films qui sont tout pourris. Donc, donc voilà, il y a certains films dont je ne vois que 10 minutes ou 20 minutes. Et celui que j'ai préféré pour l'instant, je viens d'en parler, c'est The Midnight After de Friedchan. Donc voilà, qui sortira très certainement, je pense, en DTV
ou pas. Jours.
J'ai confiance. Voilà, on se retrouve dans 3 jours hein, pour parler des autres films du festival.
See you Space Cowboys, quoi.
See you Space Cowboys. À bientôt.
Au revoir.
Ciao.